Les informations, Margot Delpierre.
Bonjour à tous. Les syndicats d'Airbus espèrent éviter des départs contraints. Le constructeur aéronautique européen engage une restructuration. 2300 postes seront supprimés, dont 400 en France. À quelle mobilisation s'attendre aujourd'hui? De nouvelles manifestations sont prévues un peu partout en France pour dénoncer une fois de plus la réforme des retraites. Il s'agit de la 10e journée interprofessionnelle d'action. Avant le procès en extradition de Julian Assange, notre correspondant au Royaume-Uni a rencontré le père du fondateur de Wikileaks, c'est le rédacteur en chef du site Témoignages à suivre. Et puis dans 10 minutes, vous retrouverez le journal des idées de Jacques Munier, consacré aujourd'hui à la haute fonction publique. Avant de revenir à l'actualité française, l'une des informations à la une ce matin, c'est ce bilan. 9 morts en Allemagne, dont 2 fusillades à Hanau, près de Francfort. Les attaques ont eu lieu hier soir. L'auteur présumé a été retrouvé mort chez lui avec un autre cadavre. Il pourrait avoir agi seul. L'enquête se poursuit. Des bars à chicha ont été visés, selon les médias sur place. Nous en reparlerons dans une demi-heure avec notre correspondant en Allemagne. Airbus va supprimer plus de 2300 postes, dont 404 en France. Ses activités spatiales et de défense ne se portent pas très bien, c'est-à-dire la division qui produit des avions militaires et des satellites, conséquence de l'atonie du marché spatial et du report de plusieurs contrats de défense. Les syndicats qu'elle avait déjà alertés en décembre dernier espèrent éviter tout départ contraint, Raphaël Ebenstein.
Aucune décision n'a encore été prise sur le calendrier et la forme que prendront les 404 suppressions de postes en France. Plan de départ volontaire, rupture conventionnelle collective, départ à la retraite non remplacé, tout sera négocié avec les partenaires sociaux, insiste la direction d'Airbus. Juste une certitude, les sites de Toulouse et d'Elancourt dans les Yvelines, les seuls en France de la division défense et espace, seront touchés. La faute à plusieurs années de vaches maigres, de prise de commande un peu faible, selon les mots d'un proche du dossier. Allusion au déboire de la 400M, l'avion de transport militaire qui a accumulé les problèmes techniques, les retards de livraison et qui a aussi souffert du veto de l'Allemagne à toute vente à l'Arabie Saoudite, un gros client traditionnel depuis 2018. Mais le secteur des satellites télécoms n'a pas non plus été très florissant et les syndicats se préparaient d'ailleurs à une restructuration, surtout depuis l'annonce en décembre dernier d'une perte de 881 millions d'euros pour l'activité défense et espace en 2019.
Raphaël Ebenstein. À Paris, comme dans plusieurs villes de France, des manifestations auront lieu aujourd'hui pour dénoncer une fois de plus la réforme des retraites. C'est la 10e journée interprofessionnelle de mobilisation et une certaine fatigue se fait sentir. La grève lundi dernier dans les transports franciliens a été très peu suivie, mais les syndicats ne s'avouent pas battus alors que l'Assemblée examine le texte. Encore faut-il trouver de nouveaux relais. C'est l'équation que tente de résoudre Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière qui n'a pas l'intention de baisser les bras.
La question de la forme de la mobilisation, elle est une question qui est souvent posée de manière éternelle. Est-ce qu'on est en capacité d'élargir et de généraliser la mobilisation, y compris par la grève? Ça ne peut que se décider par les salariés eux-mêmes. Nous avions dit que nous y étions prêts depuis le mois d'août. Nous avons tout fait pour aller dans ce sens-là. Nous ne pouvons pas nous décider comme ça. Demain, c'est la grève générale et la grève générale a lieu demain. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Par contre, je pense que le gouvernement aurait tort de ne pas prendre la mesure de ce que signifie une mobilisation aussi longue, avec un soutien aussi large, y compris, si j'en crois, les sondages d'opinion publique.
Yves Verrier, le patron de Force ouvrière, interrogé par Anne-Laure Jumet. La CGT, Solidaire, la FSU et les organisations de jeunesse et étudiantes appellent aussi à descendre dans la rue. En politique, tous les coups sont-ils permis? Il semblerait que la réponse soit oui. Hier matin, sur France Inter, le ministre de l'Intérieur a évoqué la vie privée d'Olivier Faure, qui a été accompagné dans ses divorces et ses séparations. Un tacle au premier secrétaire du Parti Socialiste qui, la veille, avait dénoncé, je cite, l'incroyable légèreté de Benjamin Griveaux, ex-candidat LREM à la mairie de Paris. Un cap vient d'être franchi vers plus d'agressivité et c'est à l'image de notre société, selon Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste de la communication politique.
Au fond, tout devient permis parce que la télé-réalité est passée par là, parce qu'il y a un fond qui est plus proche, on va dire, des émissions de Cyril Hanouna dans le débat politique que du sérieux des débats à la De Gaulle. Les hommes politiques deviennent un peu à l'image d'Emmanuel Macron, ils deviennent coupés en deux. Et une partie d'eux tend toujours à vouloir ressembler au vieux modèle classique de l'homme politique lettré, à la Mitterrand, à la De Gaulle qui va écrire ses mémoires. Et l'autre partie, finalement, a un pied dans la rue, va prendre un ton beaucoup plus familier, beaucoup moins intellectuel, et en l'occurrence, comme Castaner, parler du divorce d'un adversaire politique. Ils deviennent comme ça, c'est partagé en deux. Pourquoi ? Parce qu'au fond, la modernité est plus dans la deuxième catégorie. La modernité, c'est plus Donald Trump, et ce modèle-là devient le modèle dominant parce qu'il y a les réseaux sociaux qui facilitent ça, parce qu'il y a aussi une tendance people des hommes politiques depuis des années et des années en France. C'est Mélenchon qui va donner ses recettes de quinoa dans Gala, c'est les émissions de Karine Le Marchand, c'est toute une communication que les hommes politiques ont adopté volontairement. Et donc c'est la suite logique, quelque part, cette dérive, si on veut. Et la question maintenant, c'est quelle est la prochaine étape, parce que ça change complètement la donne de la communication politique.
Philippe Moreau-Chevrolet, également président de MCBG Conseil, il répondait à Pierre Neveu. Julian Assange sera-t-il extradé vers les États-Unis ? Son procès pour le déterminer doit commencer lundi au Royaume-Uni et il s'annonce particulièrement tendu. Le clan Wikileaks se mobilise pour dénoncer le risque pour la liberté de la presse. Le rédacteur en chef du site et le père de Julian Assange seront aujourd'hui à Paris, épaulés par l'organisation Reporters sans frontières. Antoine Gignot les a rencontrés avant leur départ.
À chaque visite, il passe par trois sas de sécurité, une fouille et un arrêt devant les chiens de la prison de Penmarch. Et puis, à 75 ans, il s'assoit dans le parloir au milieu d'une foule de détenus. John Shipton vient voir son fils, mais Julian Assange, dit-il, n'est plus le même homme.
Julian souffre des conséquences de 10 ans de torture psychologique. C'était un homme d'une nature très douce et il ne l'est plus vraiment aujourd'hui. Cette souffrance a des effets délétères sur sa santé psychologique et physique.
Et il y a urgence. Les 117 médecins de 18 pays différents qui signent ces derniers jours une lettre conjointe dans la revue médicale britannique The Lancet évoquent clairement un danger de mort.
Washington adorerait que Julian succombe à ses persécutions pour que ce soit une leçon pour tous les autres journalistes et les autres éditeurs, les autres médias. C'est un problème global de l'Occident. Il faut qu'on puisse parler librement des problèmes qui nous concernent. Autrement dit, la liberté d'expression. Mais je pense qu'on va réussir collectivement.
Et lorsqu'on évoque la longueur du procès qui va durer au moins jusqu'au mois de juin, peut-être plusieurs années, John Shipton n'a aucun doute, il sera là jusqu'au bout. Plus ils font pression sur Julian, plus j'ai de la force, dit-il, comme n'importe quel père ou n'importe quelle mère.
Et hier, dans une audience préparatoire, les avocats ont affirmé qu'un ancien élu républicain qui agissait sur ordre du président Donald Trump avait promis à Julian Assange une grâce présidentielle à condition qu'il revienne sur des informations publiées à l'époque et qu'il affirme publiquement que la Russie n'était pas impliquée dans le piratage des courriels électroniques du Parti démocrate aux États-Unis. L'épidémie de coronavirus a fait 114 morts de plus en Chine pendant les dernières 24 heures. Au total, plus de 2100 personnes sont mortes. Au Japon, les médias annoncent ce matin la mort de deux passagers du Diamond Princess, bateau qui était en quarantaine dans le port de Yokohama. On évoque régulièrement la situation à Idlib sur France Culture. La province du nord-ouest de la Syrie subit de nombreux assauts et les ONG déplorent une situation humanitaire catastrophique alors que la tension est grande entre la Russie et la Turquie. Le président turc a menacé une nouvelle fois d'attaquer l'armée syrienne si elle ne stoppe pas son offensive dans cette région frontalière avec la Turquie. La Russie, soutien du régime syrien, a immédiatement mis en garde Ankara en qualifiant une telle attaque de pire option. Aurélien Colli.
Idlib, 3 millions de civils, réfugiés au gré des reconquêtes du régime syrien. Idlib, dernier bastion de rebelles où cohabitent des combattants soutenus par la Turquie voisine et des djihadistes qui dominent sur le terrain. Idlib, une région que Bachar al-Assad a toujours voulu reconquérir et qu'il a fini par encercler en 2018 avec l'appui de ses alliés russes et iraniens, avant que Moscou s'accorde avec Ankara sur un cessez-le-feu, à charge pour la Russie de contenir le régime syrien et pour la Turquie de faire le tri entre rebelles modérés et radicaux. Mais les escarmouches n'ont jamais cessé et depuis décembre, l'armée syrienne est repartie à l'offensive, a repris tout le sud de la province, poussant 900 000 civils vers le nord et encerclant ou visant même des postes d'observation. l'information turque, le tout avec la bénédiction du parrain russe qui accuse la Turquie de ne pas avoir réglé le problème djihadiste. La Turquie qui, elle, fulmine, menace, déploie des renforts à Idlib, mais garde sa frontière fermée pour se protéger des réfugiés et négocie encore avec Moscou malgré l'escalade verbale.
Les précisions d'Aurélien Colli. En France, le soleil sera généreux tout au long de la journée sur une bonne moitié sud du pays. Plus au nord, le ciel sera chargé, les nuages bas, accompagnés parfois de pluie par endroits. Il fait ce matin 7 degrés à Strasbourg, 8 à Lille, 9 degrés à Paris et 13 à Nice.